L'année suivante, 1707, nous eûmes beaucoup de fatigue à essuyer, à cause que le vent d'Est régna beaucoup, car pour lors nous allions patrouiller toute la Manche. Nous y prîmes un petit cap anglais et en brûlâmes un d'ostende à la côte d'Angleterre. Nous fûmes un jour dans un très grand péril de périr avec deux galères. Étant dans le port de Dunkerque par le plus beau temps du monde sans qu'il parût aucun nuage, M. de Longeron, qui était impatient d'aller visiter la côte d'Angleterre, appela tous ses pilotes hauturiers et ceux des côtes pour leur demander leur avis sur le temps et s'il y avait apparence qu'il changeât bientôt. Ils furent tous d'accord que le temps était constant et que le vent de nord-est nous promettait un temps certain. J'ai déjà dit que nous prenions toujours de grandes précautions pour mettre en mer depuis qu'Ostende était aux alliés, car si une tempête du vent d'ouest ou sud-ouest nous eût surpris en mer et que nous eussions manqué le port de Dunkerque, nous aurions été contraints de courir au nord ou de nous échouer sur la côte de quelque province appartenant aux alliés, car les galères ne peuvent pas tenir la mer dans un gros temps. Je reviens au conseil de nos pilotes qui assuraient tous la durée du beau temps. Nous avions à bord de notre galère, qui était la commandante, depuis que M. de Longeron, notre capitaine, était devenu chef d'escadre. Nous avions, dis-je, un pilote côtier, qui était un pêcheur de Dunkerque nommé Peter Barth. Il était propre frère du fameux Jean Barth, amiral du Nord. Mais ce Peter Barth n'était qu'un pauvre pêcheur, s'étant toujours adonné à la crapule et à l'ivrognerie du Genièvre qu'il buvait comme de l'eau. Mais d'ailleurs, habile connaisseur des côtes et grand observateur du temps, car je n'ai jamais vu qu'il se soit trompé à pronostiquer quel vent et quel temps nous aurions 2 ou 3 jours à l'avance. Ce pilote, cependant, tel que je le dépeins, ne trouvait pas beaucoup de croyance chez les autres pilotes, ni auprès du commandant, parce qu'il était presque toujours ivre. On l'appela cependant à ce conseil pour dire son avis. Il parlait un très mauvais français, et disait toujours « toi » à tout le monde. Il dit donc son sentiment, tout opposé à ceux des autres pilotes. « Tu veux aller en mer ?» dit-il à notre commandant. « Je te promets, demain matin, un bon bouillon. » Voilà comment il s'exprimait, parlant de la mer agitée. On se moqua de son avis, et quelque instance qu'il fit pour qu'on le mît à terre, le commandant n'y voulut jamais consentir. Enfin, nous mîmes en mer notre galère et celle de M. de Fontette, avec un temps si beau et si calme qu'on aurait tenu une bougie allumée au bout du mât. Nous fûmes aux côtés de Douvres et de Blanquet, faire ronfler notre artillerie dans le sable des dunes une bonne partie de la nuit. Après quoi, nous revînmes sur les côtes de France, à la rade d'Ambleteuse, village situé entre Calais et Boulogne. Il y avait dans cet endroit une anse, entre 2 montagnes, qui mettait à l'abri du vent d'est et nord-ouest les navires qui y ancraient. Je ne sais par quelle fantaisie notre commandant voulut aller mouiller l'ancre dans cette anse. Monsieur de Fontette fut plus sage. Il resta dans la grande rade. D'abord que Peter Barth vit la manœuvre que nous faisions pour aller mouiller dans cette anse, il cria comme un perdu de s'en bien garder. On lui en demanda la raison. Il assura qu'au soleil levé, nous aurions la plus grande tempête du vent du sud-ouest que de vie d'homme on eût vue, et que l'entrée de cette anse étant exposée à ce vent, nous ne pourrions en sortir ni éviter de tomber sur les roches sous eau dont cette anse était remplie, et où la galère se briserait, et qu'il ne s'en sauverait pas un chat. On se moqua de lui et de son avis, et nous entrâmes dans cette fatale anse un peu avant le jour. Nous y jetâmes 2 ancres, et chacun songea à prendre un peu de repos. Cependant, Peter Barth pleurait et soupirait, se disant à l'approche d'une mort inévitable. Enfin, le jour parut. Le vent se mit au sud-ouest, mais si faible qu'on n'y prenait pas garde. Mais à mesure que le soleil se levait, il se renforçait, ce qui réveilla l'attention sur le pronostic de Peter Barth. On se mit en état de sortir de l'anse. Mais une tempête des plus furieuses s'éleva si subitement qu'au lieu de lever nos ancres, il fallut en jeter 2 autres pour nous soutenir contre la violence du vent et des vagues qui nous jetaient sur des écueils, que la baisse des vagues nous faisait apercevoir à chaque instant près du derrière de la galère, et ce qu'il y avait de plus fâcheux, c'était que l'ancrage de cette anse ne valait rien, et que les 4 ancres que nous avions mouillées à la proue de la galère labouraient et ne pouvaient tenir fond, et nous acculions à vue d'œil sur les rochers. Le commandant et tous nos pilotes, voyant que nos ancres ne pouvaient tenir, trouvèrent à propos de faire ramer sur les ancres, pour les soulager. Mais aussitôt qu'on trempait les rames à la mer pour ramer, les épouvantables vagues les emportaient bien loin de là. Alors tout le monde connut le naufrage inévitable. Chacun pleurait, gémissait et faisait sa prière. L'aumônier exposa le Saint-Sacrement, donna la bénédiction et l'absolution à ceux qui se sentaient une véritable contrition, n'y ayant ni le temps ni l'occasion d'aller à confession. Ce qu'il y avait de singulier dans une si grande désolation, c'était d'entendre ces malheureux forçats condamnés pour leurs crimes crier hautement aux commandants et aux officiers. « Allez, messieurs, nous allons être bientôt tous égaux, car nous ne tarderons pas à boire dans un même verre. » Jugez de la contrition et de la repentance qu'ils avaient de leurs crimes. Enfin, dans cette horrible extrémité où tout le monde n'attendait qu'une mort visible et prochaine, le commandant vit Peter Barth qui s'affligeait et se lamentait. « Mon cher Peter, lui dit-il, si je t'avais cru, nous ne serions pas dans cette grande angoisse. N'as-tu pas quelque expédient pour nous sauver de cet inévitable péril ?»« Que sert, lui répondit Peter, que je conseille ou que j'agisse si je ne suis pas écouté ?»« Oui, dit-il, j'ai un moyen, avec la grâce de Dieu, pour sortir de ce mauvais pas. Mais je te déclare, continua-t-il dans son méchant français, que si ma vie n'y était pas intéressée, je vous laisserais tous noyer comme des cochons que vous êtes. » Cette impertinence lui fut facilement pardonnée en faveur de sa rusticité naïve et de l'espérance qu'on avait qu'il nous sauverait la vie. « Mais, ajouta-t-il, je ne prétends pas être contrarié dans ma manœuvre, qui vous paraîtra d'abord ridicule. Il faut qu'on obéisse à mon commandement, sans quoi nous périrons tous. » Le commandant fit aussitôt battre un banc par le tambour, avec ordre, sous peine de la vie, d'obéir à Peter Barth en tout ce qu'il ordonnerait. Après quoi, Peter demanda au commandant s'il avait une bourse d'or. « Oui, dit le commandant, la voilà, dispose-en comme de la tienne, » et lui donna sa bourse. Peter, après en avoir tiré 4 louis d'or, la lui rendit. Ensuite, il demanda aux matelots de la galère s'il y en avait 4 parmi eux, bien résolus à faire ce qu'il leur ordonnerait, et que chacun aurait 1 louis d'or pour boire. Il s'en présenta plus de 20. Il en choisit 4 des plus déterminés qu'il fit mettre dans la grosse chaloupe, nommée la caïque, qu'on tient toujours embarquée sur la galère lorsqu'on navire. Il leur fit mettre une ancre, que nous avions encore sur la galère dans cette chaloupe, mais le câble restait sur la galère pour le laisser filer à mesure qu'il s'éloignerait. Ce qui étant fait, il fit descendre la chaloupe à la mer par les palans à poulies avec ses 4 hommes et l'ancre, et leur ordonna d'aller porter cette ancre sur le derrière de la galère contre le rocher sur lequel nous acculions et de la jeter là. À cet ordre, tout le monde levait les épaules, ne pouvant concevoir ce que cette ancre pouvait faire sur le derrière de la galère, puisque c'était sur son devant qu'il fallait la retenir. Le commandant même ne put s'empêcher de lui demander à quoi servirait cette ancre. Peter lui répondit, « Tu le verras, s'il plaît à Dieu. » Ces 4 matelots réussirent, quoiqu'avec grand-peine et péril d'être submergés, et portèrent l'ancre contre le rocher. Alors, Peter, frappant dans la main du commandant, lui dit, « Nous sommes sauvés grâce à Dieu. » Mais on ne comprenait rien encore à sa manœuvre. Ensuite, Peter fit descendre l'antenne en bas, et fit attacher la grande voile, et pliant cette voile en rouleau, l'attacha avec des joncs marins, afin qu'en tirant les coudes de la voile, ses joncs cassant, la voile se trouva tendue. Il fait ensuite rehisser l'antenne, la garde à sa fantaisie, ordonne 4 hommes avec des haches pour couper les 4 câbles des ancres sur le devant de la galère lorsqu'il l'ordonnerait, puis fait tirer et roidir le câble de l'ancre qu'il avait fait mettre sur le derrière contre le rocher et ordonne un homme avec une hache pour la couper à son ordre. Cela fait, et le tout préparé de la manière que je viens de dire, il ordonne aux 4 hommes sur le devant de couper les câbles des 4 ancres. Aussitôt que la galère se sentit détachée sur le devant, elle commença à tourner parce qu'elle était assujettie sur les derrières et aurait, si on lui en avait donné le temps, tourné de la proue à la poupe. Car l'endroit d'un bâtiment qui est attaché tourne toujours contre le vent. Lorsque Peter vit que la galère avait assez tourné pour pouvoir prendre un quart de vent dans la voile, il fit tirer les coudes de la voile. Aussitôt, les joncs se cassèrent et dans un clin d'œil, la voile fut tendue et prit son quart de vent. Au même moment, il fit couper le câble de l'ancre de derrière et lui-même tenant le gouvernail, fit sortir la galère de cette fatale anse comme un trait d'arbalète. Nous fûmes donc, par l'habileté de Peter Barth, sauvés de ce grand et manifeste péril d'être brisés sur l'écueil de cette anse, et nous nous revîmes en pleine mer. Il s'agissait alors de courir dans le premier port pour nous mettre à couvert de cette furieuse tempête qui continuait avec plus de force que jamais. Dunkerque était le seul sous le vent que nous eussions. La difficulté d'y aller ne nous inquiétait pas, nous n'en étions qu'à 12 lieues. Et le vent furieux qui soufflait, et qui étant du sud-ouest nous était vent arrière, nous y porta en moins de 3 heures, sans autre voile qu'un petit perroquet pour pouvoir gouverner. Mais nous étions, du moins nos officiers, dans la plus grande angoisse du monde, par la crainte que la tempête ne nous poussât au point de nous faire passer Dunkerque. Alors il nous aurait fallu courir au nord, et à cause du mauvais temps, nous aurions été contraints d'échouer sur les côtes de Hollande. C'était ce que les forçats souhaitaient ardemment, mais ce que les officiers et le reste de l'équipage craignaient extrêmement. Enfin, c'était une nécessité de hasarder le paquet. Nous courûmes donc à Dunkerque et nous arrivâmes à la rade de ce port. Notre galère avait laissé toutes ses ancres dans l'anse d'embloteuse, et Monsieur de Fontaine qui nous suivait nous en donna 2 que nous mouillâmes dans cette rade, où l'ancrage par bonheur est fort bon et tenable. Il nous fallut y rester 6 heures pour attendre la marée haute afin de pouvoir entrer dans le port. Pendant ces 6 heures, nous fûmes toujours entre la mort et la vie. Les vagues, comme des montagnes, nous couvraient continuellement. On eut grand soin de tenir les écoutilles bien fermées, sans quoi le fond de cale aurait été dans un moment plein d'eau et nous aurions coulé à fond. Tout le monde était en prière, tant sur nos galères que dans la ville de Dunkerque, dont les habitants nous voyaient dans ce grand danger. On y exposa le Saint-Sacrement dans toutes les églises et on y ordonna des prières publiques pour nous. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider, car aucun bâtiment, ni petit ni grand, ne pouvait sortir du port pour nous secourir. Il fallut donc patienter malgré nous pendant ces 6 heures que, la marée étant haute, il était question de lever nos ancres ou de laisser filer les câbles pour entrer dans le port. Mais autre difficulté. Il faut savoir que le port de Dunkerque est construit par 2 puissantes digues qu'on nomme jetées, qui s'avancent presque une demi-lieue dans la mer. La tête de ces jetées forme l'embouchure ou entrée du port. Cette entrée est difficile pour les bâtiments qui sont obligés d'y entrer par le sud à cause d'un banc de sable qui se trouve devant cette embouchure, ce qui fait que pour y entrer, il faut raser la côte du sud et observer, en gouvernant juste, de tourner tout court entre ces 2 têtes de jetées dont l'entrée est étroite et par conséquent très difficile dans un gros temps. Surtout pour les galères qui sont d'une extrême longueur et qu'on ne peut faire tourner facilement. Toutes ces difficultés nous intriguaient fort. Outre que la tête de ces jetées se trouvait pour lors couverte par la mer, à cause de l'horrible tempête qui la grossissait. Et nous ne voyions l'embouchure qu'à la faveur de la baisse des vagues. Mais que faire? Il fallait entrer ou périr sans ressources. Tous nos pilotes y perdaient leur latin. On fut éveillé Peter Barth, qui dormait tranquillement dans un banc, tout mouillé qu'il était des vagues qui nous passaient sur le corps. Il avait donné ordre qu'on l'éveillât lorsque la marée serait haute, se confit. Notre commandant lui demanda s'il ne savait pas quelque moyen d'entrer dans le port sans périr. « Oui, dit-il, je vous entrerai de la manière que j'entre avec ma barque quand je reviens de la pêche avec toutes mes voiles au vent. »« Bon Dieu !» s'écria le commandant, « entrez à la voile !» Nous y péririons infailliblement, car jamais galère n'entre à la voile dans un port à cause de la difficulté de la régir par le gouvernail et que ce sont les rames qui la gouvernent. « Mais, lui dit Peter, tu ne peux faire ramer à cause de la grosse mer. » « C'est ce qui m'intrigue, dit le commandant. « Laisse-moi faire, dit Peter, tout ira bien. » Cependant, nous étions tous plus morts que vifs, mouillés jusqu'aux os, n'ayant ni mangé ni bu depuis 2 jours, parce qu'on ne pouvait avoir ni pain, ni vin, ni eau de vie. En un mot, aucun vivre, n'osant ouvrir les écoutilles, de peur que la galère ne se remplit d'eau. Outre cela, l'appréhension du péril prochain nous abattait le peu de courage qui nous restait, en considérant qu'il fallait entrer par l'étroite embouchure entre ces 2 têtes de jetée, et que, si malheureusement la galère y touchait tant soit peu, elle se briserait en 1000 pièces et pas un chat ne se sauverait. Il n'y avait que Peter Barth qui témoignait d'avoir aucune crainte et qui se moquait de la terreur panique qui nous avait tous saisis, tant officiers que les autres, nous reprochant que nous étions des poules mouillées. Il dit cependant au commandant qu'il ne pouvait éviter que la galère ne s'allât casser la proue au quai de la poissonnerie, qui était le cul de sac où aboutissait le port, à cause qu'entrant avec toutes les voiles au vent, on ne pouvait arrêter la dite galère. « Qu'importe, dit Monsieur de Langeron. Ce n'est que du bois et le travail des charpentiers réparera le dommage. » Peter donc prépare sa manœuvre, laisse filer les câbles des ancres à la mer, range les voiles, et ordonnant un grand silence, il rase la côte du sud jusqu'à l'embouchure et gouverna si habilement qu'il tourna tout court dans la dite entrée des jetées. Il amena d'abord ses voiles, mais la galère était si abreuvée de secours rapide que plus de 2 ou 3 000 matelots ou autres gens de mer que l'intendant de la ville avait envoyés sur les jetées pour nous secourir et qui nous jetaient à tout moment des cordages pour nous arrêter n'en purent venir à bout. Les plus grosses cordes se cassant comme un fil. Et enfin la galère s'alla casser le nez contre la quai de la poissonnerie, comme Peter l'avait bien prévu. La galère de Monsieur de Fontaine observa et fit la même manœuvre que la nôtre et entra aussi heureusement dans le port où étant, Peter Barth prit son congé du commandant qui voulait à toute force le retenir sur son bord en lui promettant double gage. « Non pas, lui dit Peter, quand tu me donnerais 1000 livres par mois, j'en suis sous, on ne m'y rattrapera jamais. » Et s'en alla. Nous ne sortîmes presque plus du port de Dunkerque que de tout l'été et nous désarmâmes de bonne heure pour hiverner.